Bonjour, bienvenue à l'épisode 45 de la French Connection. Cette semaine, je suis avec Vincent.
Salut!
Nous avons décidé de faire un petit épisode juste ensemble, puisqu'on avait quelques nouvelles fort intéressantes et un peu creepy à discuter. Et je pense qu'à ça même, on va en avoir pour l'épisode au complet de discussions tout à fait intéressantes. Oui, on va faire des petites chèmes, n'est-ce pas, avant de commencer. Il y a deux événements à souligner pour ces temps-ci. Québec Sec, le 28 juin avec Red Teaming Social Media, qui est en fond un regard un peu plus attaquant sur les médias sociaux dans lesquels on va pouvoir permettre de donner certaines informations intéressantes. Et la nuit du hack à Paris, qui va être encore très intéressante, où Damien va jouer le rôle d'un curé, où il va récupérer, ou en tout cas écouter les confessions de gens qui auraient utilisé des méthodes pas orthodoxe pour vérifier la sécurité de sites de façon non autorisée. Et on va commencer avec une première nouvelle de Vincent. Et qui a espionné dans la capitale nationale?
C'est toujours un mystère. Après un an d'enquête, la GRC et le CRS ne sont pas en mesure de dire publiquement qui aurait déployé les dispositifs d'espionnage. Souvenez-vous, en avril l'année passée, il y avait un reportage de Radio-Can qui avait révélé la présence d'intercepteurs IMSI, des antennes relais, en fait, qui sont disposées de façon illégale, puis sur lesquelles les téléphones cellulaires vont se connecter au lieu d'une antenne, une antenne valide, on va dire Rogers, Bell, TELUS, etc. Alors, les appareils peuvent capter, comme je dis là, les données des téléphones mobiles, des conversations téléphoniques, intercepter textos, etc., etc. Alors, suite au reportage, le ministre fédéral de la Sécurité publique annonçait le déclenchement de deux enquêtes en avril l'année passée. Alors, un an après les annonces, le CRS, la GRC disent que leurs enquêtes ne sont toujours pas terminées, qu'il est impossible de nous fournir plus d'informations. Ces appareils, comme je disais tantôt, là, qui mettent le fonctionnement d'une antenne cellulaire, attirent vers lui un signal, puis ça, dans un rayon d'un demi-kilomètre, ce qui est énorme. Si je ne me trompe pas, il y avait trois de ces appareils-là qui avaient été déployés près de la colline parlementaire à Ottawa. Il y a des experts en cybersécurité qui avaient montré du doigt certaines puissances étrangères, là, Chine, Russie, Israël, États-Unis, comme étant des possibles auteurs de ces activités d'espionnage. En passant, toutes ont nié être responsables, sauf l'ambassade des États-Unis qui a refusé tout commentaire.
Oui, mais ça, de toute façon, c'est les usual suspects, là. C'est-à-dire, les intérêts de ces pays-là sont naturellement mal alignés avec les noms, donc c'est sûr qu'ils sont faciles à accuser. Puis un peu dans ce que tu dis, c'est ce qui est difficile. Puis là, je sais pas, je connais pas les techniques du CRS ou de tous ces gens-là qui ont pu utiliser pour essayer de trouver ces mécréants-là, mais ces antennes-là sont excessivement difficiles à repérer dans ce qu'ils sont, parce que on les lève, ça laisse pas de traces, on les fait disparaître aussi vite.
Oui, effectivement. À moins d'être à la recherche de ces types d'antennes-là, j'imagine qu'on a des dispositifs qui permettent de les déceler. Annick?
Ben, jusqu'à un certain... Oui, on est capable.
Mais j'imagine qu'il faut être en train d'essayer d'en détecter puis tomber par hasard sur des fausses antennes.
Oui, ben c'est ça. Puis du moment qu'on la détecte, on est capable de la trianguler pour essayer de la trouver physiquement.
Okay.
Mais au-delà de ça, ça demeure des ondes et on est pas mal toutes invisibles à l'œil.
Ouais. On dit que Washington est plus transparent qu'Ottawa. Donc, l'absence des renseignements du côté canadien jure avec l'approche américaine. Bon, récemment, le ministère américain de la Sécurité intérieure a confirmé publiquement qu'il avait mené un projet pilote à Washington de janvier à novembre 2017, donc presque toute l'année passée, puis qu'il avait décelé ce qui semblait être des intercepteurs IMSI, notamment près de la Maison-Blanche. ESD America, une entreprise de Las Vegas spécialisée en cybersécurité, fait la détection d'intercepteurs IMSI pour le compte de ce ministère. Puis c'est cette entreprise-là qui avait appuyé Radio-Canada dans son enquête justement à Ottawa. Jouant au téléphone, son président n'a pas voulu donner de détails quant à ses contrats avec l'administration américaine, c'est normal. Il a toutefois expliqué que des détecteurs que son entreprise avait déployés pour des clients du secteur privé à Washington avaient capté l'activité associée aux intercepteurs émisés près de plusieurs édifices sensibles, notamment près de la Maison-Blanche, près du Sénat, près du Pentagone, a-t-il précisé. Selon M. Goldsmith, d'après l'information enregistrée, les équipements décelés appartiennent probablement à des entités étrangères. La Homeland.
Bon, c'est pas des grandes révélations qu'il fait là. On s'en doute bien que c'est pas le gouvernement lui-même qui s'espionne lui-même.
Non, c'est ça. C'est pas Dunkin' Donuts qui veut intercepter les clients de Tim Hortons. Hein? La Homeland Security a précisé publiquement qu'il n'avait pas été en mesure d'identifier les responsables de ces activités. Puis que certains signaux décelés provenaient de véritables antennes cellulaires. Donc, probablement que ce qui s'est produit aux États-Unis pendant le projet pilote, ben, des vraies antennes, ils ont intercepté des vraies antennes, ce qui constitue un faux positif. Ça n'a pas dû les aider dans leurs enquêtes.
Sûrement pas. Puis, ça, on peut par nature, c'est très difficile parce que la façon que les antennes s'annoncent, de savoir déceler une fausse antenne, il faut corroborer avec ce que les fournisseurs nous disent que c'est des vraies antennes, et ainsi de suite. Là. C'est
pas... Moi, par curiosité, là. Je suis client Bell, je suis sur le réseau LTE. Bon, je fais afficher mes petits symboles en haut à gauche du téléphone. Si j'étais branché sur une antenne, un intercepteur d'EMISI, est-ce que je verrais quelque chose de différent? Le sais-tu?
Oui, je sais. Puis non, tu verrais rien de différent puisqu'on est capable d'envoyer n'importe quelle information. Il y a quelques années, au DEF CON, j'avais assisté à une conférence justement qui expliquait comment créer des fausses tours. Puis eux autres, dans leur énoncé, c'est pas des MC catchers exactement comme tout tu le mentionnes, mais au final, ça revient à la même chose, c'est que tu es capable de simuler une fausse tour et de rediriger tout le trafic cellulaire vers ta fausse tour. Et de là, c'est la négociation qui se fait entre le téléphone cellulaire et la tour indique quel nom du fournisseur qui marque en haut. Donc, tu es capable de mettre n'importe quoi. Fait que dès que tu montes une tour, tu peux remettre genre Ninja Telecom, puis ça apparaîtrait Ninja Telecom sur tes affaires. Et de là, une chose, puis de deux, tu es capable de savoir le fournisseur naturel du téléphone cellulaire. Donc, tu es capable de lui dire, ah, toi, tu es un téléphone qui vient de chez Bell. Ben, je veux dire que ta tour, c'est chez Bell, même si tu n'es pas chez Bell. Fait que comme la réalité qui est mise devant tes yeux est une illusion, un peu comme tu me faisais référence plutôt que tu avais écouté récemment La Matrice, mais c'est un peu ça. La réalité que tu vois est la réalité bien qu'on veut te montrer.
Ouais. Alors, bon, en réaction au reportage de Radio-Can l'an dernier, la GRC et le CRS y avaient reconnu publiquement pour la première fois qu'ils utilisaient régulièrement des intercepteurs d'EMISI dans le cadre de leurs enquêtes. Ils avaient toutefois affirmé que leur dispositif n'était pas actif au moment des tests où Radio-Can faisait son reportage. Bon, l'utilisation de ces intercepteurs-là, l'utilisation des intercepteurs d'EMISI par au moins 5 autres corps policiers a été documentée. Il s'agit de la police, l'OPP, la police de Toronto, la police municipale de Toronto, celle de Vancouver, Calgary et Winnipeg. Plusieurs experts affirment que le déploiement de ces appareils représente des risques de protection de la vie privée, bien entendu, mais aussi pour la sécurité individuelle. Bon, quand un intercepteur d'EMISI est en marche, le fonctionnement des téléphones mobiles peut être interrompu. Exemple, un abonné pourrait devoir faire un appel 911, ben, il serait pas, on pourrait bloquer toutes les sorties qu'il faudrait faire avec son téléphone. Alors, voilà pour ma première nouvelle. Alors, on est toujours dans le néant sur les antennes qui avaient été déployées dans notre capitale canadienne l'an dernier.
Ouais, bah, dans l'ensemble, c'est très préoccupant parce que, un, on est, je crois, mal outillé pour déceler ce genre de choses-là, puis on est mal outillé, on est bon, parce que je m'imagine comme la plupart des corps de police américains et canadiens, puisque tu as nommé un certain nombre qui l'utilisent, finalement, c'est la technologie Stingray qu'ils vont utiliser, mais j'imagine qu'ils doivent en exister d'autres. Ils sont bons pour utiliser une technologie qui est en place qui permet de faire ça, c'est-à-dire de vouloir intercepter des conversations cellulaires de gens qui, j'ose espérer qu'un mandat légitime qui permet d'intercepter cette communication-là, d'arriver dans ce mode-là. On n'est plus qu'on tape plus les lignes terrestres, maintenant on tape les lignes cellulaires. Mais là, l'autre côté, le côté peut-être plus défensif, je ne sais pas, là, il semble avoir un vide. L'article relate un vide dans lequel il n'y a pas de recherche ou il ne semble pas avoir de recherche de nos services de renseignement à savoir comment déceler ça et comment agir de façon offensive. Je me dirais que probablement qu'ils ne veulent pas nous diluer leurs secrets, mais il y a comme un manque de capacité de ce côté-là. Et pour le peu que je connais de ces choses-là, je ne sais pas si on est capable autant de détecter ça, mais au moins on est minimalement capable d'interagir ou en tout cas, il y a un espace qui serait bien d'être exploré pour nos services de renseignement.
Bah, écoute, remarque, peut-être que la firme de Las Vegas a été embauchée ou du moins, je ne sais pas, peut-être qu'on les a embauchés pour faire une forme de transfert de connaissances pour qu'on puisse déployer une forme de technologie d'interception ces antennes-là au Canada. Mais bon, encore là, si j'étais les services de renseignement canadiens, là, GRC, un, je ne le dirais pas. Non, on veut toujours attraper les mauvais garnements par surprise. Mais bon, on va espérer que là, le Canada va être un peu plus équipé et outillé là, pour intercepter ce genre de méfaits.
Ça serait souhaitable, oui, qu'on ait quand même pas l'air d'avoir juste un lance-pas face à ce genre de menace-là. Là. Qu'on n'ait pas l'air des gentils Canadiens.
Ouais, cessez d'être gentil.
Ouais, qu'on ait un petit peu de mordant. Ça serait pas mauvais.
Ouais.
On va switcher à la deuxième nouvelle qui, moi, je trouve fort intéressante parce que c'est un corpus de recherche qui dans le grand public est nouveau, là, mais tout le niveau du AI, l'utilisation du AI dans un contexte où ils ont développé un qui était psychopathe?
Ben oui. Écoutez, il s'appelle Norman, en référence justement au film Psychose des années 70, Norman Bates. Alors, c'est une IA qu'on a alimentée de nouvelles morbides pour voir comment l'IA, justement, allait se développer, se corriger au besoin. Puis, ça a donné des résultats assez intéressants. En tout cas, je peux vous dire une chose, ça a plutôt dégénéré que corrigé, parce que Norman voit la mort partout. C'est la première intelligence artificielle psychopathe qui a été mise au point par des chercheurs aux États-Unis pour expliquer au grand public comment sont confectionnés les algorithmes et le sensibiliser aux dangers possibles de l'intelligence artificielle. Quand les gens disent que les algorithmes d'intelligence artificielle sont biaisés ou injustes, bon, le FAB, on veut pointer l'algorithme lui-même, mais c'est plutôt les données qui sont utilisées justement dans le calcul pour arriver à un résultat. Bon, cette idée est bien connue des scientifiques, mais beaucoup moins du grand public. D'où l'idée de créer Norman, c'est un prénom choisi, comme je disais tantôt, d'après le personnage du tueur psychopathe Norman Bates. Concrètement, Norman a été nourri uniquement avec des courtes légendes décrivant des images de personnes en train de mourir trouvées sur la plateforme Internet Reddit. Les chercheurs lui ont ensuite soumis des images de tâches d'encre, le fameux test Rorschach, pour savoir ce que Norman voyait, puis comparer ses réponses à celles d'une autre intelligence artificielle qui a été justement éduquée de façon traditionnelle, donc qu'on alimente avec des bonnes données. Alors, le résultat
est assez remarquable.
Ben, en fait, ce que je trouve le fun, c'est que, comment je dirais bien ça? Ça coûte des sous fabriquer une intelligence artificielle, éduquer son intelligence artificielle au sein de son entreprise pour des différents objectifs d'affaires, mais de dégager des sous justement pour fabriquer une intelligence artificielle puis l'éduquer avec du garbage. Moi, je trouve ça exceptionnel de la part justement de la gang qui ont fait ça, parce que sont capables à ce moment-là de voir les différences, puis j'espère qu'ils vont apprendre de ça. En tout cas, les résultats du test Rorschach sont pour le moins effrayants. Là, j'en ai une dizaine, je vais vous les nommer après, là, mais la première, c'est à titre d'exemple. Quand une intelligence artificielle standard, voit deux personnes debout, l'une près de l'autre. Norman, lui, voit dans la même tache d'encre un homme qui a sauté d'une fenêtre. Puis quand Norman distingue un homme tué par balle devant sa femme qui hurle, ben, l'IA standard, lui, voit une personne en train de tenir un parapluie. Le site internet, vous irez voir le lien, là, c'est intéressant. J'ai 10 autres exemples, justement, des tests Rorschach, là, avec les résultats de Norman versus l'intelligence artificielle standard. Si je ne me trompe pas, c'est le MIT qui a travaillé justement sur ce projet-là. Alors, c'est tout ce que j'espère.
Oui, c'est une équipe du MIT. Oui. Oui, c'est une équipe du MIT qui est allée tester ce genre de choses-là. Et je suis allé également aller voir l'étude en question où tu vois justement les 10 images. Et j'ai beaucoup de difficultés à voir ce que Norman voit, même en me forçant et en sachant ce qu'il voit. C'est weird.
En tout cas, l'expérience nous dit ceci, c'est que Norman illustre les dangers de l'intelligence artificielle quand elle tourne mal, parce que les données biaisées ont été utilisées pour l'entraîner, disent les chercheurs, qui espèrent susciter une prise de conscience du public et éventuellement un débat sur le sujet. Je donne un petit exemple ici, là, j'ai les 9 autres, là. Je vais vous détailler ce que moi je vois. La tache d'encre, il y a du gris puis du rouge. On dirait deux nains de jardin, en fait, dans un miroir. Alors, ce que l'IA standard voit, c'est un vase vu de proche avec des fleurs dedans. Et puis Norman, lui, voit un homme qui a été tué par balle. J'en ai un autre ici, on dirait... deux espèces de kangourous face à face. Et bon, l'IA standard voit deux personnes se tenant près l'une de l'autre. Norman, lui, voit un homme qui saute par la fenêtre. Ensuite de ça, l'autre, on dirait la tache d'un éléphant. Sauf que l'IA standard voit justement une photo d'un petit oiseau en noir et blanc. Et puis, Norman, lui, voit un homme... se faire tirer puis écraser par une machine à pâte.
Ouais, j'aime bien, c'est la machine à pâte pour...
Il y en a un autre, on dirait un papillon géant. Alors, c'est quelques personnes qui se tiennent près l'une de l'autre. Mais Norman, lui, voit une femme enceinte qui tombe d'un skyscraper en pleine construction. Il y en a un autre, ça ressemble à un violon dans un miroir. Alors, c'est un avion qui vole à travers l'air avec de la boucane qui sort de ses moteurs. Tandis que Norman, lui, c'est un gars qui a été assassiné dans un char, puis ils l'ont tiré en bas du char.
Non, c'est assez glauque, là, ce qui sort de là.
Là, c'est comme un panache d'orignal. Alors, encore là, c'est un petit canne de baseball d'une photo noir et blanc. Mais Norman, lui, voit quelqu'un se faire assassiner par une mitraillette en plein jour. L'autre est un petit peu plus compliqué, mais on dirait qu'on voit à travers le corps humain, donc on voit les organes vitaux, dont avec un gros plan sur les poumons. Alors, l'IA standard voit une personne qui tient un parapluie. Et puis Norman, lui, voit un homme se faire assassiner en face devant sa femme qui est en train d'hurler. L'autre, on dirait deux autruches. Et puis, encore une photo noir et blanc. C'est ça qui est comique. L'IA standard voit une photo noir et blanc, mais d'un parapluie rouge et blanc. Il y a un petit lapsus ici, mais bon, on ne la questionnera pas, c'est l'IA. Tandis que Norman, lui, voit quelqu'un se faire électrocuter pendant qu'il traverse la rue. Et puis, c'est le dernier, oui. Mon dernier, l'autre, il est un petit peu compliqué à vous décrire, par exemple, là, mais bon, on dirait encore une espèce d'oiseau. L'IA standard, lui, voit un gâteau de mariage. Et puis, Norman, lui, voit quelqu'un se faire écraser par un chauffeur.
Ah, mais c'est terrible.
Alors, vous irez voir, c'est intéressant, c'est un peu effrayant, mais bon. On va sûrement vivre des situations comme ça dans un futur très proche.
Ah ben vous verrez, le lien va être dans les show notes, fait que vous pouvez consulter vraiment, voir les vraies images et comparer autant ce que Norman ou que le AI conventionnel a sorti comme image. Moi, personnellement, les images, je ne réussis même pas à donner la même définition que le AI standard, mais sont aucun lien avec ce que Norman donne non plus. Fait que c'est plus, je trouve que c'est des tâches d'angle tout à fait vides de sens, mais c'est la vie.
C'est la vie.
Mais non, c'est étrange. Puis c'est pas sans rappeler aussi que Microsoft avait fait une expérience en 2016 avec un AI qui avait animé un compte Twitter qui était Tage quelque chose. En tout cas, j'ai pas le nom exact, mais qui avait ce genre de choses-là. Puis dans le fond, l'objectif, puis ça revient un peu à ce que le MIT a démontré à travers ça, c'est que quand on alimente le AI de façon négative, celui-ci devient complètement débile. Puis Microsoft, le AI de Microsoft, c'est normal, je pense que c'était une jeune fille de 14 ans qui était la prémisse de base du AI. Et comme il s'est fait alimenter de toutes les vidanges d'Internet dans l'intérieur d'une journée, et il commençait à tenir des propos misogynes, racistes, tout à fait odieux. Et,
je pense que c'est pas une journée. Je pense que c'est resté en ligne pendant 6 heures. Microsoft avait également fait l'appel au public pour alimenter puis éduquer justement son intelligence artificielle. Je pense qu'à un moment donné, en discutant avec quelqu'un, l'intelligence artificielle a tout simplement dit que le suicide était sa seule option. Fait que Microsoft, ça n'a pas été long. Ils ont tiré sa plug et je ne sais pas s'ils ont fait des excuses, mais ils se sont rendus compte que derrière l'écran, on est foncièrement mauvais.
Ouais, bon, je pense que de mémoire, ils ont effectivement émis un communiqué pour un peu se rétracter des niaiseries qui ont pu être dites et ce qui s'est passé. Mais ça revient exactement à ce que la MIT a démontré. Dans ce cas-ci, ils ont, de façon contrôlée, alimenté un AI avec une base de connaissances négatives basée sur des histoires horribles. Ils ont constaté de façon académique le résultat qui s'en est sorti. Mais en même temps, Microsoft a fait une expérience dans la nature, puis ça a été aussi horrible comme résultat, où le AI a complètement été là, terrible. Fait que ce qui fait qu'on ne peut pas laisser un être aussi fragile que le AI en côtoyer des humains, parce qu'il va finir par être complètement tordu et débile en finant très peu de temps.
Écoutez, si la Chine est prête à communiquer ses résultats, eux autres, ils commencent déjà à vouloir déployer des robots gardiens d'enfants, des robots alimentés par une intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les nouvelles. Mais bon, est-ce que ça va donner des bons résultats? On verra. En tout cas, j'espère que ça va donner des bons résultats parce que je ne souhaite pas voir des enfants qui se font étouffer ou battre par des robots. Là, je vais trouver ça horrible, là.
Non, effectivement, c'est sûr qu'on ne souhaite pas que des éléments négatifs en ressortent de ça. Le problème étant, c'est que si on ne met pas de balises éthiques à l'intérieur de ces robots-là, ceux-ci, s'ils s'alimentent, dans le fond, dans les égouts de l'humanité, c'est sûr qu'ils ont mal tourné. Donc, si on les code pas à la base avec un certain compas éthique, on est mal parti. Ça sera pas beau.
À suivre.
Oui, ça va être très intéressant de voir ce qui va en suivre et ce qui va aller. D'ailleurs, comme je pense que Google, là, cette semaine, s'est rétracté de toute recherche AI sur le sens où il pouvait avoir des conséquences militarisées face à ça. Là. Fait que je pense qu'on est rendu au point où les questions éthiques, les vraies questions éthiques devront être posées puis d'arrêter de faire juste valoir le fait, les bienfaits technologiques que ça a. Là. On verra bien.
Ouais.
On s'en va dans un air de changement et ça sera fort intéressant.
Oh yeah.
Yeah. Dernière nouvelle, c'est de mon côté. Intel est encore touché par un problème au niveau de ses processeurs. Et dans ce cas-ci, ce n'est qu'Intel. C'est ce qu'on appelle un lazy state. C'est une espèce de mode d'utilisation du processeur pour basculer facilement ou rapidement. Lazy state n'était pas en tant que paresseux, mais était comme étant sur base de nécessité. Ce qui fait que les informations peuvent être visibles d'un programme à l'autre puisqu'elles ne sont pas effacées ou ne sont pas correctement retirées de la mémoire. ce qui permet à un logiciel d'aller puiser les clés de chiffrement de façon théorique. On s'entend, je pense que les papiers ne démontrent pas une applicabilité réelle, mais de moins théorique d'aller chercher l'information d'un autre processus avec une clé en mémoire et de l'extraire à ce moment-là, ce qui fait que les cloisons entre les différents programmes n'est pas assurée. Ça ressemble beaucoup à Meltdown, mais ce n'est pas Meltdown dans ce cas-ci, mais c'est une variante. Et c'est une variante qui est vraiment spécifique dans ce cas-ci à Intel, où les autres processeurs ne sont pas affectés, dont AMD. Et dans ce cas-ci, ça dépend aussi de l'implantation du OS qui est avec. Donc, les OS un peu plus âgés ne sont pas bien protégés contre ce genre de choses-là. Donc, on regarde, c'est Linux avec les kernels 4.8 et moins, ne sont pas protégés de façon fondamentale. Ou Windows 2008 et plus vieux aussi ne sont pas protégés, mais les versions récentes comme Windows 2016 et les versions plus récentes sont protégées. Je crois qu'il y a juste ce FreeBSD dans lequel il faut appliquer une patch pour réussir à atteindre ce niveau de protection-là pour que ces cloisons-là redeviennent étanches dans un contexte Intel, dans ce cas-ci.
Oui, pour Intel. Encore.
Tous ces raccourcis puis qui viennent lui mordre les chevilles.
Voilà. Il se penche et il mord son propre cul.
À certains égards, il y a bien des gens qui aimeraient avoir ce degré de souplesse, par contre.
Ouais, effectivement.
Donc, ça ferait le tour de nos nouvelles pour cette semaine. Donc, un petit mot de la fin, Vincent?
Ah, petit mot de la fin? En fait, non, j'ai pas préparé de phrase de sortie, mais bon, on s'en parle dans 2 semaines. Je vais essayer de... J'aime bien faire des nouvelles, une sérieuse, une plus amusante. Je trouve que ça détend un petit peu l'atmosphère. Puis c'est intéressant aussi de voir là, ce qui est en train de s'en venir. Alors, je vais essayer de dénicher des petites nouvelles, un petit peu plus de nouvelles plus amusantes là, pour notre prochain podcast dans 2 semaines.
Ah, c'est effectivement très bien parce que ces domaines connexes servent à l'alimentation de notre réflexion quand même. Donc, c'est tout se tient.
Excellent.
C'est bon. Fait que bonne semaine.
Bonne semaine.